Chapitre 16. Shota lance à Richard un regard plein de défis.
Jebra vient de te décrire ce que feront ces soldats si tu ne les arrêtes pas. Penses-tu que ces hommes soient capables de se poser des questions sur le sens de leur existence, ou qu'ils participeront à une révolte contre l'ordre si l'occasion se présente? Bien sûr que non. Je suis là pour te dire que le sort des Bénitia guette toutes les cités des contrées, de Terre d'Ouest et de Dara. Si tu n'agis pas, voilà ce qui nous attend. Comprendre comment les soudards de l'ordre sont devenus des brutes, en analysant les choix qu'ils ont faits dans leur vie et les raisons qui les motivaient, n'est absolument pas notre problème. Ces hommes sont des tueurs sans pitié. Ils nous attaquent et nous devons les éliminer. Une fois morts, ils ne nous menaceront plus. C'est aussi simple que ça.
Richard se demanda comment la voyante espérait qu'il s'acquitterait d'une tâche aussi simple que ça. En décrochant la lune pour la jeter sur l'armée de l'ordre, peut-être? Comme si elle avait lu les pensées de son ami, Nietzsche vola à son secours.
Shota, nous sommes tous d'accord avec ce que vous êtes venu nous dire. Pour être honnête, nous le savions déjà, et nous ne sommes pas ravis d'être traités comme des enfants. Le problème, c'est que vous n'avez pas conscience de la difficulté. L'armée qu'a vue Jebra, cette force qui a conquis Galéa sans effort, n'est qu'une unité des plus mineures des troupes de l'ordre.
« Vous racontez n'importe quoi !»
s'écria Jebra. Nietzsche cessa de foudroyer la voyante du regard et se tourna vers la Pythie.
« Avez-vous vu des forces magiques ?»«
Des forces magiques ? Eh bien non, je ne crois pas. »«
Savez-vous pourquoi ?»« Parce qu'une si petite unité ne compte pas dans ses rangs de magicienne ou de sorcier. » Dans le cas contraire, Shota aurait eu beaucoup plus de mal à venir vous secourir. Mais elle est passée inaperçue parce qu'il n'y avait pas de surveillance magique. Aux yeux de Jagang, une force si insignifiante peut être sacrifiée aisément. C'est aussi pour ça que les vivres ont mis si longtemps à arriver. La priorité, ce sont les troupes stationnées au nord, le gros de l'armée. Quand ces soldats-là sont ravitaillés, on s'occupe des autres, les troupes dites expéditionnaires.
« Vous ne comprenez pas, » insista Jebra. « C'est une immense armée. Je l'ai vue de mes yeux. »
La Pythie essuya ses larmes, puis regarda tour à tour toutes les personnes présentes dans le hall.
« J'ai travaillé des mois et des mois pour ces brutes. Comment pourrais-je me tromper au sujet de cette armée alors que je l'ai vue à l'œuvre? Les défenseurs de Galéa n'étaient pas des femmelettes et... ces soldats ne représentent rien !»
lâcha Nietzsche, impitoyable. Jebra ressemblait de plus en plus à une biche prise au piège.
Ma description manquait peut-être de précision. Si je n'ai pas réussi à vous faire comprendre ce que fut la prise des Bénitia, eh bien, je m'en excuse. Et
c'était un récit parfait et très évocateur,
la coupa Nietzsche. Elle posa une main sur l'épaule de Jebra et la serra gentiment.
Mais vous n'avez vu qu'un détail d'un très grand tableau. Ce que vous connaissez, si terrifiant que ce soit, est insignifiant comparé à l'ensemble de la menace. Rien ne peut vous préparer à voir le gros de l'armée que dirige Jagang en personne. Croyez-moi, j'ai passé assez de temps dans le camp de l'empereur pour savoir de quoi je parle.
Nietzsche dit vrai,
intervint Zed.
Ça me désole de l'admettre, mais elle a parfaitement raison. L'armée principale de Jagang est bien plus importante que celle qui a terrassé Galéa. Je me suis battu pour ralentir l'avancée de cette horde lorsqu'elle fondait sur Aydindril. Moi aussi, je sais de quoi je parle. Face à ce raz-de-marée, on a l'impression de voir déferler sur le monde des vivants les meutes de démons du gardien en personne.
Dans sa tunique toute simple, le vieux sorcier, toujours debout en haut des quelques marches qui descendaient vers la fontaine, semblait indifférent à tout. Mais Richard savait qu'il ne fallait pas s'y fier. Zed aimait bien écouter les autres en silence avant de donner son opinion, et dans le cas présent, il n'avait rien dû entendre qui méritât d'être corrigé sur le champ.
« Si les forces de l'ordre qui occupent Galéa n'ont pas de soutien magique, dit Jebra, nous pourrions peut-être envoyer des sœurs de la lumière pour les combattre ? Avec un peu de chance, elles sauveront les survivants qui ont subi tant d'horreurs. Il n'est pas encore trop tard. »
Sans oser le dire, Jebra devait s'indigner que ses interlocuteurs n'aient pas déjà pensé à cette solution.
À la lointaine époque où il n'était qu'un garde forestier, Richard aurait certainement raisonné comme la pitié. Aujourd'hui, il savait que les choses étaient beaucoup plus compliquées que ça.
« C'est impossible, »
répondit Nietzsche.
« Contrairement aux apparences, les sœurs tueraient beaucoup d'ennemis, c'est vrai, et elles ficheraient la pagaille dans leur rang. Mais au bout du compte, cette force expéditionnaire est assez importante pour résister à tous nos assauts magiques. Z lui-même finirait par échouer. Il déchaînerait du feu de sorcier sur les soudards, mais, tandis qu'il devrait s'interrompre pour lancer ses sorts, les officiers lui enverraient vagues de guerriers sur vagues de guerriers. Les pertes seraient lourdes, certes, mais l'ordre ne se laisse pas perturber par ce genre de détails. Au prix de milliers de morts, nos adversaires réussiraient à submerger un sorcier aussi doué que Z, et sans lui, que deviendrions-nous ? »
Nietzsche jeta un regard appuyé à Richard. « Quelques archers suffisent pour tuer un pratiquant de la magie. Si une flèche fait mouche, le résultat est garanti. »
« Là encore, j'ai peur que Nietzsche ait raison, » soupira Z. « Au bout du compte, l'ordre serait au même endroit dans une situation identique, mais avec un peu moins d'hommes. En revanche, nous aurions perdu une partie de nos forces magiques. » Alors que nos adversaires peuvent recevoir des renforts presque jusqu'à la fin des temps, nous ne disposons pas de tant de sœurs que ça. Je sais que c'est dur à admettre, mais notre seule chance est de ne pas gaspiller nos ressources pour des batailles perdues d'avance. Quand nous jouerons notre vatou, il faudra avoir de sérieuses chances de gagner. »
Richard aurait voulu partager l'optimisme de son grand-père. Hélas, il ne voyait aucun moyen d'inverser l'issue du conflit. Différer la fin devait être possible, mais rien de plus. Djebra hocha tristement la tête, ses derniers espoirs réduits à néant. Avec la fatigue et l'angoisse qui ternissaient sa peau et la ridaient, la pitié faisait beaucoup plus que son âge. Les épaules voûtées par un travail épuisant, les mains calleuses à force de trimer dur, Djebra n'avait plus vraiment de ressort. S'il ne l'avait pas tué, les bourreaux de l'ordre l'avaient vidé de son énergie. Vaincue par les épreuves qu'elle avait traversées et les atrocités dont elle avait été témoin, Djebra était à la dérive. Combien d'autres prisonniers de l'ordre étaient-ils dans le même état, agissant comme des automates, alors que quelque chose en leur âme s'était éteint à jamais? Richard en eut le tournis. Pourquoi Shota avait-elle imposé à Djebra un long voyage, puis ce témoignage déchirant? Comme tous ses compagnons, le sorcier n'avait plus rien à découvrir sur la vraie nature de l'ordre. Après un séjour d'un an en Alterang, il en savait même plus long que n'importe qui. N'avait-il pas été à l'origine de la révolte dans la ville natale de Jagang? Le récit de Djebra lui avait simplement confirmé ce qu'il savait déjà. Le nouveau monde n'avait pas l'ombre d'une chance face à l'ordre impérial. L'armée d'Aran aurait probablement réussi à arrêter l'unité qui s'était emparée de Galéa, mais contre le gros de la Horde, elle aurait aussi été balayée en un rien de temps. À l'époque de sa rencontre avec Kalan, Richard avait dû affronter Darkenral, et l'affaire n'avait rien eu de facile. Pourtant, il avait fini par réussir en tuant le tyran. Mais aujourd'hui, les données étaient différentes. Même s'il haïssait viscéralement Jagang, ce conflit n'avait aucun rapport avec le précédent. Trouver un moyen d'éliminer Jagang ne résoudrait rien. La philosophie de l'ordre dépassait de loin la personne de l'empereur. S'il disparaissait, quelqu'un prendrait sa place et tout continuerait comme avant. La vision de Shota, un avenir désespérant pour l'humanité en cas de victoire de l'ordre, n'avait rien de très impressionnant. Pour prédire les catastrophes que provoqueraient Jagang et ses sbires, il n'y avait pas besoin d'un prophète. Si on les laissait faire, les brutes domineraient le monde. Dans cet ordre d'idées, Djebra n'avait rien appris de neuf à Richard. Si les choses continuaient ainsi, la bataille finale serait une boucherie pour le nouveau monde. Tous les braves qui s'opposaient à l'ordre périraient, lui laissant les mains libres pour tuer, violer et piller. Shota n'était pas stupide. Elle savait tout ça et se doutait sûrement que le sorcier en était conscient aussi. Dans ce cas, quelle était la véritable raison de sa venue? La voyante n'était pas femme à agir à la légère. Elle avait un plan, mais lequel? S'il ne lui avait rien appris, le récit de Djebra avait réveillé les angoisses et la colère de Richard. Révolté, il en avait presque oublié Kalan. Parfois, elle ne lui semblait plus vraiment réelle.
Juste après ces moments-là, il se détestait lui-même. Pourtant, de plus en plus souvent, quand il évoquait son sourire, ses yeux, ses magnifiques cheveux, la douceur de sa peau, il avait l'impression de penser à un fantôme qui existait encore dans sa seule imagination. La seule idée que Callan puisse ne pas exister ou ne plus exister lui déchirait les entrailles. Des semaines durant, il avait vécu dans le doute, se demandant s'il pouvait avoir raison contre le monde entier. Ses plus proches amis avaient oublié Callan. Jusqu'à la découverte du sort d'oubli, il avait dû crier dans le désert en cachant sa peur d'être tout simplement victime de son imagination. Callan n'avait rien d'un fantôme, et il devait trouver un moyen de la libérer des griffes d'Ulyssia et de ses complices. Penser que sa femme était prisonnière de tels monstres l'empêchait de dormir et lui donnait souvent envie de hurler. Que subissait l'être qu'il aimait le plus au monde sous le joug des séides du gardien? Il n'aurait pas dû se torturer en y pensant sans cesse, mais comment faire autrement? Malgré ce que croyait Shota, Richard devait se concentrer sur plusieurs dangers à la fois. L'ordre impérial n'était pas tout, et la chaîne de flammes non plus. Il y avait la menace des boîtes d'ordaines et les dégâts infligés à la magie par les carillons. Pas question d'oublier tout ça parce que la voyante entendait lui dire comment agir. D'autant plus qu'il ne faisait aucune confiance à Shota, qui pouvait très bien œuvrer en réalité pour sa complice, la mystérieuse Sis. Qui savait jamais ce que mijotait cette femme? Cela dit, tout comme Callan d'ailleurs, Richard avait un profond respect pour Shota. Par le passé, elle lui avait mis pas mal de bâtons dans les roues, il fallait le reconnaître. Mais elle avait aussi souvent tenté de l'aider. Et à d'autres occasions, elle s'était simplement comportée comme la messagère de la vérité. Ses prédictions n'étaient jamais fausses, même si elles n'aboutissaient pas souvent aux résultats qu'elle annonçait, sincèrement ou non. Comme le répétait Zed, les voyantes avaient l'art de dire aux gens ce qu'ils n'avaient aucune envie d'entendre et il fallait s'en méfier comme de la peste. Lors de leur première rencontre, Shota avait prédit à Richard que Callan le toucherait avec son pouvoir. Pour empêcher ça, avait-elle ajouté, il devait la tuer. Pour finir, Callan avait bien utilisé son pouvoir sur Richard, mais c'était grâce à ça qu'il avait pu abuser d'Arkenral et le vaincre. Shota avait eu raison dans les grandes lignes. Dans le détail, c'était une autre affaire. Si le sorcier l'avait écouté, d'Arkenral aurait survécu et contrôlé le pouvoir d'Ordaine. Aujourd'hui, le monde entier vivrait sous son joug, l'ordre impérial compris. Une autre prédiction de Shota hantait Richard. S'il épousait Callan, avait-elle annoncé, celle-ci mettrait au monde un enfant qui deviendrait monstrueux. Les deux jeunes gens s'étaient quand même mariés. Comme souvent, la prédiction de Shota ne se réaliserait pas exactement, ils en étaient persuadés. La voix de Zed arrache à Richard à ses sombres méditations.
« Qu'est-il arrivé à la reine Cyrilla ?» demanda le vieil homme.
Dans un silence de mort, tous attendirent la réponse de Djebra.
Tout s'est passé comme dans ma vision. Elle est devenue un jouet pour les soldats du rang. Ses chiens étaient tout excités de recevoir un tel trophée et elle avait vécu un calvaire. Ses pires angoisses se sont réalisées.
Zed fronça les sourcils comme s'il était persuadé que Djebra ne leur disait pas tout.
Donc, tu ne l'as jamais revue?
Eh bien, pas exactement. Un jour, alors que j'apportais un plat de viande à un officier, j'ai vu des soldats jouer avec ardeur à un jeu très en vogue dans l'armée de l'ordre. Des spectateurs regardaient les deux équipes, les encourageaient de la voix et pariaient sur le résultat de la rencontre. J'ignore comment se nomme ce jeu.
Le Jala,
dit Nietzsche. Voyant que Djebra l'y invitait, elle développa son explication.
En théorie, c'est un sport qui exige de grandes qualités physiques, de la précision et un sens aigu de la stratégie. La version à la mode sous le règne de l'ordre est extraordinairement brutale. Jagang est passionné de Jala et il a sa propre équipe. Un jour, après une défaite, tous les joueurs furent mis à mort. Leurs remplaçants, sélectionnés parmi les plus grands champions, ne perdirent jamais plus une rencontre. Le nom complet est Jaladijin, le jeu de la vie, dans la langue maternelle de l'empereur.
Je crois avoir entendu ce nom,
dit Djebra.
Les soldats y jouaient avec une balle extrêmement lourde, assez pour briser parfois les os des joueurs, il faut le dire.
Cette balle s'appelle un broc, dit Richard.
C'est ça, oui,
confirma Nietzsche.
Ce jour-là,
reprit Djebra,
je suis passé à côté du terrain de Djala. Des milliers de soldats regardaient la partie. L'officier qui avait commandé la viande pour ses amis et lui avait pris place dans une loge. Passer près des spectateurs fut une épreuve terrifiante. Voyant que j'étais une esclave, ils ne tentèrent pas de m'enlever, mais ça ne les empêcha pas d'avoir les mains baladeuses. J'avais l'habitude, mais à ce point...
La pitié se tut et baissa un moment les yeux.
Quand j'entrai enfin dans la loge, tout près du terrain, je vis qu'une nouvelle partie commençait. Mais les joueurs n'utilisaient pas le broc habituel. Non. Ils se servaient de la tête de Cyrilla.
Un long silence suivit cette révélation.
C'est affreux, bien sûr, dit la pitié. Mais c'est aussi le symbole de ce qui est arrivé à mon pays. Ebinitia, un phare du commerce et de la culture, n'est plus qu'une ville de garnison qui sert de tremplin aux campagnes de Jagang. Partout dans le pays, les champs sont épuisés par un rendement excessif et les récoltes deviennent de plus en plus chiches. Les hordes d'occupants dévorent et dévastent tout, et quand les ressources locales font défaut, les convois de ravitaillement se substituent à elles, pour les soudards, pas pour les survivants du massacre. J'ai travaillé jour et nuit pour satisfaire les officiers de Jagang. Après celle qui concernait Cyrilla, je n'ai plus jamais eu de vision. Souvent, j'ai l'impression de ne plus être que la moitié de moi-même. Mon pouvoir de pitié s'est volatilisé et je ne vois plus rien.
Croisant le regard de Nietzsche, Richard vit qu'elle devinait ce qu'il pensait.
Un jour, pourtant, mon cauchemar cessa. C'est Shota qui m'a sauvé. Je ne saurais dire comment. Tout ce que je sais, c'est qu'elle fut soudain là à mes côtés. Et qu'elle me dit de me taire et de marcher quand j'osais faire mine de lui poser une question. Stupéfié, je me suis retourné, et j'ai vu que le camp était déjà assez loin derrière nous. Comment suis-je arrivé là? Désolé, mais je n'en sais rien. Me voilà devant vous, inutile, j'en ai peur, puisque mon don n'est plus.
Jugeant que Djebra devait connaître la vérité, Richard se jeta à l'eau. Ton pouvoir a sans doute disparu parce que les carillons ont arpenté le monde il y a quelques années. On les a renvoyés dans le royaume des morts, mais le mal était fait. J'ai peur que leur présence dans l'univers des vivants ait gravement affecté la magie, voire enclenché le processus qui conduira à sa disparition. C'est l'explication de ton problème. Ta vision est sans doute perdue à jamais, et même si elle te revenait pour un temps, elle finirait par se désintégrer.
Djebra eut du mal à encaisser cette nouvelle.
Toute ma vie, j'ai souhaité être débarrassée du pouvoir, car il ne m'a attiré que des ennuis. Aujourd'hui que j'en suis libérée, paraît-il, je ne me sens pas contente du tout.
C'est l'ennui avec les souhaits, dit Zed. Il arrive qu'il se réalise et... Les carillons, vraiment?
Le coup achota. À son ton, il était évident que les digressions philosophiques de Zed ne l'intéressaient pas.
« Si ce que tu dis est vrai, Richard, il devrait y avoir d'autres manifestations du phénomène. »«
Il y en a, » dit le sorcier. « Certaines créatures magiques, par exemple, les dragons, ne se sont plus montrées depuis des années. »«
Les dragons ?»
répéta Shota.
« Richard, la plupart des gens n'en voient jamais de toute leur vie. »
Le mal qui a frappé Djebra n'est pas isolé. Hélas, beaucoup de choses nous échappent, mais...
Les choses en question ne m'échapperaient pas si elles existaient.
En temps normal, je n'en doute pas, admit Richard. Mais il y a le sort lancé par quatre sœurs de l'obscurité afin que le monde entier oublie Kalan.
Shota, c'est toi qui m'as parlé la première de la chaîne de flammes. Ce sortilège est contaminé par les carillons. Du coup, les gens n'ont pas seulement oublié Kalan. Ils ne se souviennent pas des dragons, par exemple.
La voyante ne parut pas convaincue du tout.
Je resterai consciente de ces phénomènes parce que je les verrai dans le flot du temps.
Et cette autre voyante, Sis, n'as-tu pas dit qu'elle t'empêchait de voir le flot du temps?
Shota ignora délibérément l'objection du sorcier.
Si l'ombre de l'ordre s'étend sur le monde entier, tout cela n'aura aucune importance, n'est-ce pas? Ces gens projettent de détruire la magie en plus de l'espoir et de la joie de vivre. »
Richard ne répondit pas et se tourna de nouveau vers la fontaine.
« Djebra, »
dit Shota,
« va donc rejoindre Zed en haut des marches. Je dois parler à Richard. »